Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 2 novembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les États-Unis sont très vulnérables, déclaration ce matin de l'Ayatollah Khamenei. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la marche de 13 Oban contre l'arrogance mondiale sera tenue avec le slogan de l'épopée et de la résistance partout en Iran. Les États-Unis sont très vulnérables, déclaration ce matin du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei. Et puis la question des émeutes en Iran ne concerne pas le Conseil de sécurité, déclaration du président ghanéen du Conseil de sécurité de l'ONU. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La marche de 13 Oban sera tenue avec le slogan de l'épopée de la résistance. La grande marche du 13 Oban, 4 novembre, du calendrier chrétien, 43e anniversaire de la prise de l'ambassade américaine, surnommée « Nid d'espionnage », sera tenue dans toutes les villes d'Iran avec le slogan de l'épopée de la résistance et la lutte contre l'arrogance. Coïncidant avec le 7e jour du martyre des victimes de l'attentat terroriste de Shiraz, la grande marche de 13 Oban, soit 43e anniversaire de la prise de l'ambassade des États-Unis par les étudiants iraniens, suivant le chemin de l'imam Khomeini, sera tenue à Téhéran et dans toutes les provinces du pays. Cette cérémonie sera organisée devant l'ancienne ambassade des États-Unis à Téhéran. Le président Raïsi prononcera un discours au cours de cette grande marche révolutionnaire de la nation iranienne. L'événement de la prise du nid d'espionnage des États-Unis le 4 novembre 1979 a été considéré comme la deuxième révolution dans l'histoire de la République islamique d'Iran. Le responsable de la commémoration de la journée nationale du 4 novembre, nommé « Jour d'Allah » en Iran, a annoncé la tenue des défilés dans plus de 900 villes du pays et a déclaré « Cette année, nous devrions célébrer le 4 novembre mieux que les autres années afin de montrer à l'ennemi la solidarité et l'unité de la nation iranienne ». Vahid Jalalzadeh a déclaré lundi, 31 octobre, à l'occasion d'une conférence de presse, « Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre combinée contre la nation iranienne et cette confrontation est axée sur la guerre cognitive. » Il a ajouté, « La guerre cognitive est en fait la manipulation par l'ennemi de l'esprit des gens et des fonctionnaires afin que nous agissions comme ils souhaitent. » Faisant référence à la coïncidence du 4 novembre avec le vendredi et la prière collective dans les villes du pays, il a déclaré « Cette année, comme les années précédentes, nous honorerons de la meilleure façon ce jour qui marque des événements importants de l'histoire contemporaine de l'Iran. » Le leader de la révolution islamique dit que ceux qui pensent que les États-Unis sont une puissance intouchable ont tort. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a déclaré que la prise de contrôle de l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979 prouvait que Washington était complètement vulnérable. Il a noté que l'histoire de la confrontation entre l'Iran et les États-Unis remonte au coup d'État orchestré par la CIA en Iran en 1953. Mais maintenant, les politiciens américains prétendent hypocritement et sans vergogne qu'ils sont des partisans du peuple iranien. Le leader a qualifié de mensonge pur et simple le prétendu soutien des États-Unis au peuple iranien. L'ayatollah Khamenei, s'attardant ensuite sur les émeutes des dernières semaines, a déclaré qu'un récent rapport des services de renseignement montrait comment les ennemis avaient planifié de semer le chaos dans différentes villes. Le leader a fait ses remarques lors d'une audience accordée aux étudiants, 2 jours avant l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine en 1979. Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré que la question des émeutes en Iran ne concerne pas le Conseil de sécurité. En rejetant la propagande anti-iranienne des médias occidentaux et les manipulations américaines, le nouveau président du Conseil de sécurité a déclaré que la réunion informelle convoquée par les États-Unis n'est pas une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Harold Adlai Aghiaman, ambassadeur et représentant permanent du Ghana aux Nations Unies, qui préside actuellement le Conseil de sécurité, a déclaré lors d'une conférence de presse, dixit, « L'affaire du plan global d'action conjoint est le seul dossier qui concerne l'Iran au sein du Conseil de sécurité et la question des récentes évolutions en Iran n'est pas un sujet traitable par le Conseil de sécurité ». Expliquant la nature de la réunion convoquée par les États-Unis, le président ghanéen du Conseil de sécurité a déclaré « La réunion de mercredi est un meeting formularia. Techniquement parlant, ces réunions ne sont pas les réunions du Conseil de sécurité. » Le haut diplomate iranien a précisé dans le cadre d'une lettre adressée au Conseil de sécurité qu'en lançant une campagne de manipulation et de guerre psychologique, Washington prétend que l'objectif de cette réunion est défendre les femmes iraniennes, mais en réalité, ses efforts sont alimentés par l'hypocrisie du régime américain. L'Iran est intéressé par la paix et la stabilité dans la région du Caucase. Le président Raïssi a souligné que la sécurité et la stabilité de la région du Caucase font partie de la civilisation, de l'histoire et de la culture de l'Iran et que par conséquent, la République islamique y attache de l'importance et est prête à utiliser tous ses moyens et ses énergies efficaces pour instaurer la paix et la sécurité régionale. Lors d'une réunion tenue mardi à Téhéran avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian et sa délégation qui l'accompagne en visite à Téhéran, le président Raïssi a exprimé sa satisfaction quant au progrès des relations croissantes entre Téhéran et Erevan. Il a souligné la nécessité de mobiliser toutes les énergies disponibles dans les deux pays pour élever le niveau de ces liens et développer la coopération internationale. Enfin, l'ayatollah Raïssi a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution de libération de l'Algérie. Dans un message de félicitations adressé au président et au peuple algérien, le président Raïssi a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion du 68e anniversaire de l'avènement de la grande révolution de libération d'Algérie. Dans un message au président algérien Abdelmadjid Tebboune, tout en félicitant le 68e anniversaire du déclenchement de la grande révolution libératrice de ce pays, Ebrahim Raïssi a espéré qu'au contenu des parfaites relations entre les deux pays, les coopérations Téhéran-Alger s'approfondissent dans tous les domaines. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les États-Unis sont très vulnérables. Déclaration du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a rejeté l'idée que les États-Unis sont une puissance intouchable, affirmant qu'ils sont en effet très vulnérables. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors d'une réunion avec des étudiants de tout le pays, mercredi 2 novembre, avant la Journée nationale des étudiants et la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale que les Iraniens célèbrent le 4 novembre. Certains pensent que l'Amérique est une puissance intouchable, mais si nous repassons en revue les événements de ce jour, 4 novembre, il s'avère que non, elle est totalement vulnérable, a-t-il souligné. Le leader de la révolution islamique faisait référence à la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran, également connue en Iran sous le nom de nid d'espionnage, moins d'un an après que la révolution islamique a renversé la dictature de la dynastie Pahlavi, soutenue par les États-Unis en 1979. Il a déclaré que le 4 novembre, le 13 Aban du calendrier iranien, est un jour historique qui ne sera pas oublié. « Servez-vous de ces expériences, l'avenir vous appartient », a-t-il déclaré à l'adresse des étudiants. L'Ayatollah Khamenei a qualifié de mensonge l'affirmation des Américains selon laquelle la prise de contrôle de leur ambassade à Téhéran en 1979 est ce qui a déclenché les différends en cours entre l'Iran et les États-Unis. Le point de départ de la ligne remonte au coup d'État orchestré par la CIA en 1953. Ils avancent que la raison pour laquelle les Américains se sont opposés au peuple iranien était la décision que vous avez prise à l'ambassade, a-t-il déclaré. C'est-à-dire, vous avez attaqué notre ambassade et une dispute a ensuite éclaté entre nous qui a conduit à une bagarre et une inimitié. Ils mentent, ce n'est pas le cas, a dit le leader. Au contraire, a-t-il poursuivi, le début des différends entre l'Iran et les États-Unis remonte au 19 août 1953, lorsque les Américains ont organisé un coup d'État contre le gouvernement national du premier ministre Mohammad Mossadegh. Le gouvernement de Mossadegh était un gouvernement national. Son problème avec les Occidentaux n'était que la question du pétrole. Il n'était pas non plus un Hujjatul Islam, au clerc islamique, et il n'a pas non plus promu l'islam. La question était simplement liée au pétrole qui était entre les mains des Britanniques. Il a dit que le pétrole devrait être entre nos mains. C'est son seul crime, a renchéri le leader. Il a également déclaré que Mossadegh avait fait une erreur en faisant confiance aux Américains. Il pensait que les Américains le soutiendraient contre les Britanniques, mais ils l'ont poignardé dans le dos, a-t-il dit. Notre différend avec les Américains a commencé ce jour-là. Maintenant, les politiciens américains disent hypocritement et sans vergogne soutenir la nation iranienne, a-t-il conclu.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans ce débat, nous allons évoquer la situation en Irak. En effet, les députés irakiens ont voté en faveur du cabinet du nouveau Premier ministre irakien composé de 21 membres. Ce jeudi, ce vote intervient une semaine exactement après l'élection par le Parlement d'un nouveau président, M. Rachid, Donc, un nouveau gouvernement, un nouveau parlement, un nouveau président et un nouveau premier ministre pour l'Irak. De son côté, les autorités iraniennes ont félicité la composition et ce nouveau gouvernement, ce nouveau premier ministre, le président Raisi, mais également le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Amir Abdullahian, ont envoyé séparément des messages de félicitations à ce nouveau gouvernement et ont souhaité renforcer davantage les relations et les coopérations entre les deux pays. Alors, qu'en sera-t-il de l'avenir de l'Irak? À quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir en Irak? Qu'en sera-t-il surtout de la présence des forces étrangères, notamment des États-Unis? On en saura plus avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Parlement irakien a élu jeudi 27 octobre Mohammad al-Soudani, Premier ministre. Les députés irakiens se sont réunis pour se prononcer sur le nouveau gouvernement du pays et celui-ci a pu voir le jour grâce à un vote de confiance en faveur du gouvernement dirigé par Mohammad al-Soudani. Al-Soudani, qui avait été désigné comme premier ministre irakien, a été chargé au début du mois de former le nouveau gouvernement du pays après des mois d'instabilité politique. Les députés irakiens avaient élu le président du pays, Abdel Latif Rachid, le 20 octobre, à la suite d'un vote de 162 pour contre 99 contre, succédant ainsi à Barham Salih, qui était en poste depuis 2018. Selon un norme politique en vigueur en Irak depuis 2006, un candidat kurde est élu président, tandis qu'un sunnite dirige le parlement et qu'un chiite assume la fonction de premier ministre.
Voilà, de retour sur le plateau de Presse TV. Nous sommes en ligne en direct par Luc Michel, avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, et Philippe Hugon, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Michel, je vous dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'élection du nouveau président, Monsieur Rachid, intervient après 3 tentatives infructueuses de l'élection d'un nouveau gouvernement. Donc, l'Irak, qui avait une situation qui planait dans le doute depuis des semaines, des mois, voire. Et enfin, un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement, surtout félicité par les voisins. Dans un premier temps, Monsieur Michel, comment interprétez-vous cette élection et la situation générale en Irak?
Tout d'abord, bonjour à votre équipe et à vous-même, et bonjour surtout à M. Philippe Hugon, que j'ai toujours plaisir à retrouver. C'est l'échec de 20 années d'occupation américaine en Irak. Vous savez, la géopolitique est la horreur du vide. En géopolitique, il y a des acteurs, ce sont les États et les forces politiques. Lorsqu'un acteur disparaît, il est remplacé par un autre. On a vu, par exemple, lorsque la Jamhuria libyenne de Kadhafi a été détruite, on a vu le Tchad du maréchal Idrissi Déby prendre sa place. C'est la même chose en Irak. Les Américains ont cru détruire l'Irak et ont cru plonger ce pays dans le chaos et l'occupation. Mais aujourd'hui, ce sont des forces anti-américaines qui prennent la direction de l'Irak. Et c'est une grande puissance anti-américaine, l'Iran, qui roule son rôle géopolitique de grande puissance régionale. Nous assistons donc à l'échec américain. Tout cela ne fera que renforcer la politique de l'axe de la résistance.
Mmh. Merci à vous, M. Michel. Restez avec nous. Alors, un grand bonjour également à Philippe Hugon, qui est avec nous en direct depuis la France. Bonjour, M. Hugon, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, Monsieur Hugon, comment interprétez-vous la situation générale en Irak et en fait cette élection?
Oui, alors bonjour à toute l'équipe, bien sûr, et à notre ami Luc Michel que j'apprécie beaucoup. Alors en ce qui concerne la situation actuelle en Irak, moi je dois dire que je suis très inquiet puisque c'est la marge de manœuvre de ce gouvernement qui est extrêmement étroite. Alors tout ceci rentre dans un contexte international qui est très difficile. Vous savez, l'Irak a de grandes ressources pétrolières et gazières et nous avons aujourd'hui une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue avec la Russie sur un plan énergétique. Donc ça risque, tout ceci risque d'amener des alliances extrêmement complexe à gérer, puisqu'on sait très bien que l'Occident a un besoin permanent d'énergie. Donc ça, c'est un point qui risque d'apporter une grande, je dirais, une grande mésentente entre groupes politiques, entre pays, et ça va compliquer encore un petit peu plus les relations entre ce gouvernement irakien et les forces d'occupation américaines, hein, puis on sait très bien que les Américains sont très présents sur place et sont prêts à faire beaucoup de mal dans la région pour conserver cette mainmise sur l'Irak et sur l'énergie. Donc moi je suis très inquiet de cette situation et je pense que malheureusement les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Au contraire, les choses se dégradent, plus les Américains et l'Occident serreront un petit peu la vis et plus la situation va devenir extrêmement difficile sur place.
Merci, Monsieur Hugo. Restez en ligne. Alors, Monsieur Michel, à votre avis également, est-ce que la situation va se dégrader ou plutôt c'est un échec pour la coalition, la soi-disant coalition internationale, les États-Unis présentes sur le sol irakien depuis des années sous prétexte d'instaurer la paix et la sécurité? Est-ce que ces élections ne sont-ils pas un début du retrait des Américains?
Je ne partage pas les vues pessimistes parce que c'est un dégagement de l'Irak des griffes de l'impérialisme. Le problème de l'Irak, c'est l'existence de la région autonome kurde. Elle a été séparée du reste de l'Irak dès 1995, lorsque les Américains avaient tendu une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Irak. Et cette zone, aujourd'hui, elle joue le rôle des intérêts étrangers, des États-Unis et la Turquie. Mais la tendance globale, évidemment, c'est l'échec des Américains et la tentative, évidemment, de resserrer l'emprise américaine sur l'Irak avec l'assassinat du général Soleimani, qui représentait la politique de la résistance. Elle n'a pas pu déboucher sur un renforcement du camp impérialiste. Donc moi, je reste optimiste, évidemment, d'autant plus que aujourd'hui, l'emprise occidentale dans le domaine des hydrocarbures, il est combattu à la fois par Moscou, Téhéran, mais tous les producteurs de gaz et de pétrole dans le monde, et donc l'Iran est plus isolé, pas plus que l'Irak.
Merci à vous, Monsieur Michel. Alors, Monsieur Hugon, vous avez évoqué votre inquiétude quant à une dégradation de la situation en Irak. Est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement est peut-être plus de stabilité et avoir un gouvernement stable en Irak n'aiderait-il pas à un retrait peut-être forcé et précipité des États-Unis, des forces américaines de l'Irak?
Oui, alors moi je suis pas optimiste hein, sur cette situation parce que cette crise de l'énergie que l'on a actuellement en Europe, hein, aux États-Unis, puisque on ne peut pas faire sans pétrole malheureusement, va apporter des accords qui risquent d'être un petit peu difficiles à gérer. Quand on parle de l'échec américain en Irak, je suis tout à fait de l'avis de Luc Michel, ça, c'est en effet à longue échéance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je dirais que ça fait quand même plus de 20 ans que les Américains ont malgré tout gagné sur le plan énergétique, puisque même si ils sont condamnés, même s'ils perdent dans des tas de domaines, ils restent quand même présents sur place, quelque part, c'est quand même une petite victoire et qui leur permet de contrôler malgré tout la région. Et ça, malheureusement, c'est pour moi une grande tristesse de voir que le peuple irakien, et quand je parle du peuple irakien, c'est un petit peu le peuple de différents pays comme l'Iran, comme la Syrie, comme qui souffre énormément de cette situation, pendant que nous, en monde occidental, nous vivons pas trop mal une situation qui est invivable sur place. On a une très grande indifférence, je trouve, envers tous ces gens qui meurent chaque jour. Et moi, c'est ça qui me rend très pessimiste, parce que je vois une très grande indifférence au niveau des peuples occidentaux par rapport à tous ces peuples qui souffrent. Et ceci pour des raisons économiques, des raisons politiques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis aussi pessimiste quand je vois la situation se dérouler actuellement au Moyen-Orient. Malheureusement, je dirais que je vois pas aujourd'hui un gouvernement qui aura suffisamment de force pour pouvoir gérer cette situation. Je pense que ça va introduire un certain nombre de compromis, et les compromis dans certaines situations deviennent très vite ingérables. Donc ça risque de relancer des vagues de violence, des vagues d'attentats, et pour cette raison-là, oui, je suis inquiet.
Et Monsieur Hugo, en ce qui concerne une coopération, une relation davantage renforcée, une alliance entre l'Iran, l'Irak, les autres alliés, à savoir le Liban, la Syrie, donc l'axe de la résistance, est-ce qu'on ne pourrait pas rester quand même un petit peu optimiste au renforcement de cette alliance avec ce nouveau gouvernement irakien ?
Alors, sur ce point, je suis d'accord. Là, on peut être optimiste sur ce point. Ça risque de resserrer un petit peu les liens. Le problème, c'est est-ce que l'Occident ne va pas perturber les cartes dans cette diplomatie d'entente. Et malheureusement, c'est ce que je crains. C'est ce renforcement de façon à essayer, je dirais, de torpiller quelque part certains accords, de façon à ce que l'Irak reste dans une situation difficile, afin que le monde occidental puisse une fois de plus profiter de cette situation, hein, et s'accaparer un petit peu les réserves gazières et pétrolières de l'Irak. Et je pense que c'est le gouvernement actuellement, le nouveau gouvernement irakien, va avoir une marge qui va être extrêmement réduite pour conduire cette diplomatie.
Merci beaucoup. Restez en ligne. Monsieur Michel, vous, à votre avis, cette alliance qui pourra se former davantage entre l'Iran, l'Irak et donc toute l'axe de la résistance avec ce nouveau gouvernement irakien, n'augure-t-elle pas de bonnes choses pour l'avenir?
Tout d'abord, je voudrais intervenir sur ce qu'a dit M. Hugo. Je suis comme lui, je partage sa tristesse au sort des peuples. C'est justement la question qui a dominé le sommet des Dakar sur la sécurité qui vient de se tenir en Afrique. Les Africains ont expliqué qu'ils souhaitaient la propre position dans la guerre en Ukraine à partir du moment où les Occidentaux étaient indifférents au malheur des peuples africains. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est cet égoïsme occidental. Maintenant, il faut retenir que ce qui est capital, c'est l'affaiblissement des États-Unis. Leur éjection d'Afghanistan. Il faut souhaiter maintenant une éjection de Syrie. Lorsque l'Irak ne sera plus brillant des taux, il est déjà peu du côté de l'Afghanistan, mais qu'il sera plus brillant des taux du côté de la Syrie, les choses seront possibles avec l'axe de la résistance. Rappelons-nous que la politique américaine en Irak d'agression, elle était pilotée par l'ambassadeur américain en Afghanistan, à Kaboul, qui était l'ambassadeur Khalilzad. C'est l'architecte de la politique américaine en Afghanistan et en Irak. Cette politique est un échec. C'est cela que je veux retenir comme touche optimiste dans cette configuration géopolitique.
Merci pour vos explications. Alors, en ce qui concerne des politiques américaines, M. Hugo, les États-Unis sont quand même assez préoccupés et occupés, en quelque sorte, dans cette crise ukraino-russe. Donc, sur un front, les États-Unis sont assez occupés. Est-ce que ceci pourrait davantage affaiblir les Américains sur le terrain en Irak, donc la formation de ce nouveau gouvernement, une alliance avec l'axe de la résistance de ce nouveau gouvernement et les préoccupations des États-Unis sur d'autres fronts, à savoir l'Ukraine?
Oui, de toute façon, il faut savoir que la domination américaine va se finir dans les 15-20 ans qui viennent, puisque je pense que, vous savez, les États-Unis, c'est un peu un géant avec des pieds d'argile. Et aujourd'hui, il y a malgré tout quand même un réveil d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Et cette politique menée par les États-Unis qui ont conduit de partout à des guerres et au chaos et à la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde, cette politique doit cesser et va cesser, même si ça prend encore un petit peu de temps, parce que je pense que tout ceci va prendre beaucoup de temps, d'autant plus que les difficultés économiques que l'on connaît en Europe ou aux États-Unis font que les peuples et que les populations ont tendance à se refermer un petit peu sur eux-mêmes et jouer un petit peu la carte de la survie économique. Donc il est vrai que leur état d'esprit est occupé par autre chose que ce qui peut se passer à travers le monde, mais je pense que cette domination américaine qui a fait tant de mal à travers le monde va s'effondrer petit à petit du fait de la situation économique américaine. Je crois qu'ils n'ont jamais été quand même dans une situation aussi difficile et à tous les niveaux. Moi, je dirais la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est pas très gentil de dire ça de ma part, mais il est à souhaiter que le monde occidental connaisse un effondrement financier afin que l'on cesse d'intervenir dans les politiques intérieures d'un grand nombre de pays. Alors aujourd'hui on parle de l'Irak, mais c'est le cas d'un grand nombre de pays, comme le disait Michel également en Afrique, mais c'est également le cas, comme on l'a vu en ce qui concerne les Américains, le mal qu'ils ont pu faire en Amérique du Sud. Eh bien, il est à souhaiter que l'on connaisse une crise financière importante afin que les choses puissent être mises à leur juste place et qu'on cesse d'intervenir comme on le fait depuis des dizaines d'années dans un grand nombre de pays et qu'on déstabilise, qui crée le chaos économique mais qui crée surtout la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde.
Merci pour vos explications. À votre avis, vous, Monsieur Michel, quand est-ce qu'on sera témoin de la fin de la présence interventionniste de l'ex-US OTAN, non seulement au Moyen-Orient, comme le dit M. Hugo, mais également en Afrique et dans d'autres pays du monde entier?
Le projet géopolitique mondial des Américains, c'est un échec. À la fin de la chute de l'Union soviétique, ils ont proclamé le nouvel ordre mondial. Il était basé sur un projet géopolitique, c'est justement ce nouvel ordre mondial, et sur un projet géoéconomique, c'est la globalisation, qui était la domination de l'économie mondiale par les Américains. L'année passée, il y a un livre fondamental qui a été publié, c'est le livre noir de la globalisation. Il démontre que toutes les opérations géopolitiques américaines sont liées aux opérations géoéconomiques de la globalisation, et que le coût des guerres américaines de la globalisation et de 600 millions d'êtres humains. Nous assistons au crépuscule de ce projet américain. Donc je suis optimiste pour voir ce projet terminé. Mais avant, les Américains ont un projet de contre-offensive. C'est un espèce de banco géopolitique. Ils pensent que profitant de ce qui est encore leur puissance, ils peuvent tenter un coup de banco géopolitique et tenter de faire que le 21e siècle soit un nouveau siècle américain. Donc il faut s'attendre au dernier sursaut de la bête blessée. Et lorsqu'une bête blessée se défend, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse.
Merci à vous, M. Michel et M. Hugon. Il y a aussi la question du soutien qu'apportent les gouvernements européens aux politiques interventionnistes des États-Unis partout dans le monde. Jusqu'où ce suivisme aveuglé se poursuivra-t-il, à votre avis, de la part des pays européens?
Je crois que c'est surtout une question économique. L'Europe est dans une situation économique catastrophique. Et comme le disait très bien Luc Michel, une bête blessée est plus dangereuse qu'une bête en bonne santé, puisqu'ils sont capables de faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on peut craindre. Et aujourd'hui, on voit encore les politiques européennes se calquer sur la ligne américaine, ce qui est, à mon avis, une très très grande erreur que commet l'Union européenne. Et moi, je souhaite vraiment, comme je vous le disais, c'est peut-être pas très bien de dire ça aujourd'hui, mais il y a un effondrement financier qui fait que les États seront obligés de se recentrer sur leur politique intérieure et s'occuper et que l'on s'occupe enfin de nos affaires et qu'on cesse cette ingérence permanente que comme on le fait depuis des dizaines d'années. Et je vous dis bien, ces ingérences, elles créent des centaines de milliers de morts. Et je trouve que dans le monde occidental, ces centaines de milliers de morts qu'ont pu faire ces politiques interventionnistes, eh bien, on ne parle pas beaucoup des victimes, mais du mal que l'on aura pu faire depuis une cinquantaine d'années.
Mmh, merci beaucoup. Et donc, Monsieur Hugon, vous avez évoqué peut-être la nécessité d'une éventuelle crise économique. Donc, il y a aussi la crise énergétique qui sévit l'Union européenne dans les jours à venir, les semaines à venir, avec l'hiver et l'automne. Et donc, ce manque d'énergie dû au soutien qu'apportent les pays européens aux États-Unis dans la crise ukraino-russe, n'est-ce pas, Monsieur Hugon?
Ah oui, tout à fait. Alors, ça, il est clair que vous savez, en Europe, il suffit d'aller dans un supermarché. Vous voyez les rayons qui sont pleins et Noël approche, on va voir la période des cadeaux, les périodes festives et les peuples européens n'ont pas conscience des difficultés et surtout, non seulement pour certains ils n'en ont pas conscience, mais délibérément ils refusent de voir les réalités en face. Pendant que nous, on va faire la fête au moment de Noël, eh bien des tas de gens vont mourir de faim. Et tant que l'Union européenne et les pays occidentaux ne seront pas touchés par ces crises alimentaires, ne seront pas touchés par ces crises économiques, ces crises de travail, eh bien beaucoup de gens ne voudront pas ouvrir les yeux sur la réelle situation et l'autre partie de la population, elle, qui en a conscience, ne refuse catégoriquement de voir les réalités en face. Et tant que nous ne serons pas touchés personnellement par toutes ces crises, eh bien on ne comprendra pas ce que vivent ces gens et la souffrance que nous imposons à tous ces peuples.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Hugon. Le mot de la fin est à vous, Monsieur Michel. On vous écoute.
Écoutez, les politiciens qui sont au pouvoir à Bruxelles, ce sont des politiciens atlantistes. C'est une classe politique comprador qui a été mise au pouvoir par les Américains. Lors du traité de Maastricht, ils ont décidé dans le traité de confier la défense de l'Europe à l'OTAN. C'est la mort du projet géopolitique de l'Europe. Le grand géopoliticien, Jordi von Lausanne, c'était un général autrichien, il est mort aujourd'hui. Il avait écrit il y a 25 ans que la participation des politiciens atlantistes européens aux guerres américaines en Irak et en Yougoslavie, c'était une trahison à long terme des intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est à cela que nous assistons. Il faut suivre deux phénomènes fondamentaux. C'est d'autre part la colère et la misère des masses européennes qui vont devoir choisir entre manger, se chauffer, rouler en voiture ou tout simplement vivre décemment. Et le refus des élites neutres européennes, les diplomates, les politiciens, les généraux, les industriels, de se voir attirés dans le désastre américain par les politiciens atlantiques. C'est cela qu'il faut suivre, c'est cela qui me rend optimiste aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à Luc Michel, géopoliticien qui était avec nous depuis Bruxelles, Philippe Hugon, analyste politique qui est avec nous depuis la France. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Vous pourriez également revoir toutes les émissions et les informations sur notre site web french.presstv.ir. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.
chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le président iranien a déclaré que la paix et la stabilité dans le Caucase sont d'une grande importance pour la République islamique d'Iran et que toute ingérence étrangère dans les affaires de la région agitée ne fera que compliquer la situation là-bas. M. Ebrahim Raisi a fait ses remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre arménien Nikol Pashinyan en visitant la capitale Téhéran mardi 1er novembre à la suite d'une rencontre entre les deux parties. Il a déclaré que la région du Caucase fait partie de l'histoire, de la civilisation et de la culture de l'Iran. « Nous sommes sensibles à la région du Caucase. La sécurité et la paix dans la région du Caucase sont très importantes pour l'Iran », a-t-il dit. Le président iranien a ajouté « Nos négociations avec M. Pashinyan ont abouti à la conclusion que les problèmes régionaux doivent être traités par les autorités de la région. » Toute intervention d'étrangère crée elle-même un problème au lieu d'aider à résoudre les problèmes. Exprimant sa satisfaction face à la tendance croissante des relations entre les deux pays, M. Raisi a déclaré « Compte tenu des capacités diverses et nombreuses disponibles en Iran et en Arménie, il est nécessaire de déployer tous nos efforts pour améliorer le niveau des relations et élargir la coopération bilatérale. » Le président iranien a souligné la coopération énergétique comme l'une des capacités disponibles pour améliorer le niveau des relations entre les deux pays, déclarant « La République islamique d'Iran est prête à étendre la coopération dans d'autres domaines économiques et commerciaux, notamment en augmentant l'exportation de produits techniques et services d'ingénierie. » M. Pashinyan, pour sa part, a apprécié le rôle constructif de la République islamique d'Iran dans la région et a souligné que les efforts de l'Iran ont toujours visé à stabiliser et à renforcer la paix et la sécurité dans la région. Il a exprimé sa gratitude pour la priorité accordée par l'administration de Raisi au développement des relations avec les pays voisins. Compte tenu des intérêts des deux pays et des capacités existantes, nous devrions essayer d'améliorer le niveau actuel des relations entre les deux pays, a-t-il dit. Le premier ministre arménien a également appelé au renforcement de la coopération de transit entre les deux pays pour relier la mer Noire au golfe Persique. Pashinyan, à la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, est entré mardi matin en Iran sur l'invitation officielle du président iranien. Les ministres iraniens et arméniens ont signé un protocole d'accord concernant la prolongation de l'accord sur l'électricité et le gaz. Il a indiqué que des discussions ont eu lieu dans le domaine de l'énergie et de l'agriculture, des infrastructures et de la gestion des ressources en eau. Le CGRI a saisi un pétrolier étranger faisant passer en contrebande des millions de litres de carburant dans le golfe Persique. Un responsable du pouvoir judiciaire iranien a déclaré lundi 31 octobre que le CGRI avait confisqué un navire-citerne étranger transportant des millions de litres de carburant de contrebande dans les eaux du golfe Persique. Le chef du département de la justice de la province de Hormozgan, sud d'Iran, Mojtaba Rahramani, a annoncé que les forces de la première zone navale du CGRI avaient saisi le navire dans le golfe Persique dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrebande organisée. Il transportait 11 millions de litres de carburant. Tous les membres de l'équipage ont été arrêtés. Le navire a été saisi après un mois de travail technique et de renseignements détaillés, a-t-il indiqué, sans fournir de détails sur la propriété du navire. La valeur de la cargaison saisie est évaluée à plus de 51,8 millions de dollars. Les personnes impliquées dans la contrebande seront également poursuivies. Les trafiquants qui pillent les richesses nationales en coordination avec l'étranger seront traduits en justice. Ils seront punis sévèrement et sans clémence, a déclaré M. Rahramani. Le 27 mai, le CGRI a saisi deux pétroliers grecs dans les eaux du golfe Persique pour violation, quelques jours après qu'un pétrolier iranien ait été confisqué par la Grèce dans ses eaux territoriales. New News, affilié au Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, a rapporté à cette date que le pays allait prendre des mesures punitives contre la Grèce. L'Organisation iranienne des ports et de la navigation avait publié une déclaration quelques jours plus tôt décrivant la saisie de la cargaison de pétrole iranien d'un navire exploité par la Russie dans les eaux territoriales grecques comme un acte de piraterie et de non-respect des lois internationales. L'agence de presse Reuters a affirmé, citant des sources anonymes, que le ministère américain de la Justice avait confisqué 700 000 barils de pétrole iranien saisis un mois plus tôt au large de l'île d'Obé, dans le sud de la Grèce, à bord d'un navire exploité par la Russie. À l'occasion de l'ouverture du 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, ce mardi 1er novembre, le mouvement yéménite Ansarallah a appelé les pays membres à entrer en action pour mettre un terme à l'agression et au blocus imposé au Yémen. Cité par l'agence de presse yéménite Sabah, Mahdi al-Mashat, chef du conseil politique suprême d'Ansarallah, a déclaré que le Yémen s'attend à ce que l'Algérie et les dirigeants de la Ligue arabe se tiennent aux côtés du peuple yéménite et de son droit légitime de mettre fin à 8 ans d'agression et de lever le blocus jusqu'à ce que le Yémen retrouve sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et ce, en nettoyant son territoire de la présence des occupants étrangers. Dans une lettre s'adressant au président algérien Abdelmejid Tebboune à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution algérienne, Mahdi al-Mashat a écrit: le Yémen exige une compensation pour toutes les pertes qu'il a subies au cours des 8 dernières années. Nous attendons du sommet arabe en Algérie qu'il aide les Yéménites à cristalliser des solutions nationales sans aucune tutelle ni ingérence douteuse dans le sens des intérêts du peuple yéménite et à réaliser tous ses droits. Plus loin dans ses propos, le chef du conseil politique suprême d'Ansarallah a appelé la Ligue arabe à se positionner du côté du peuple palestinien, à trouver des solutions à d'autres questions du monde arabe, loin des ingérences étrangères et des intérêts étroits. Cela intervient alors que les ressources et les richesses nationales yéménites ne cessent d'attiser les convoitises des forces d'occupation présentes dans le pays. Dans ce contexte, le membre du bureau politique d'Ansarallah, Ali al-Rahoum, a déclaré dimanche 30 octobre aux journalistes: notre patience face au pillage des richesses et des ressources du Yémen a des limites et ne durera pas longtemps. Et nos armes stratégiques et dissuasives ont changé les équations sur le terrain. En allusion à la récente opération de drones de l'armée yéménite sur le port d'Al-Zaba, dans le gouvernorat de Hadramout, au sud du Yémen, pour empêcher le pillage de ressources pétrolières nationales, il a indiqué: l'opération d'Al-Zaba porte ce message d'avertissement selon lequel nous ne resterons pas les bras croisés face à la privation de la nation de ses richesses, au pillage des ressources du pays par les agresseurs et au stockage de leurs revenus dans la banque saoudienne d'Al-Ahli. Une organisation internationale de défense des droits de l'homme affirme que les tribunaux saoudiens ont déclaré coupables et condamné à mort plus d'une douzaine d'activistes anti-régime saoudien à l'issue de procès inéquitables et sur la base d'aveux obtenus sous la torture et les mauvais traitements. Il s'agit de la peine capitale prononcée contre 15 autres prisonniers politiques, portant à 53 le nombre de personnes risquant une exécution immédiate, dont au moins 8 mineurs. Plus tôt ce mois-ci, le Comité pour la défense des droits de l'homme dans la péninsule arabique a mis en garde contre les violations massives des droits de l'homme en Arabie saoudite, alors que les autorités recourent à des formes brutales de torture physique et mentale contre des dissidents politiques et des activistes emprisonnés. L'organisation non gouvernementale a déclaré dans un communiqué que le soi-disant tribunal pénal spécialisé de Riyad a condamné à mort plusieurs autres ressortissants saoudiens simplement pour avoir exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, participé à des rassemblements pacifiques en faveur de la démocratie ou dénoncé la discrimination sociale. Le Comité pour la défense des droits de l'homme dans la péninsule arabique a déclaré que l'Arabie saoudite est le royaume de la terreur et a appelé la communauté internationale et les institutions des droits de l'homme du monde entier à mettre fin aux exécutions massives imminentes qui pourraient avoir lieu sous de fausses accusations et non fondées sur des critères légaux. depuis que Mohammed bin Salman est devenu le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite en 2017, le royaume a arrêté des centaines d'activistes, blogueurs, intellectuels et autres pour leur activisme politique, faisant preuve d'une tolérance zéro pour la dissidence, même face à la condamnation internationale de la répression. Lors d'une allocution le 29 octobre, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a attribué la récente signature par le régime sioniste d'un accord maritime avec Beyrouth à la crainte de Tel Aviv de s'engager dans un autre conflit avec la résistance. La résistance libanaise avait menacé de ne pas autoriser l'extraction de gaz du champ de gaz naturel contesté de Karish en Méditerranée orientale avant la conclusion d'un accord qui répondrait aux exigences de Beyrouth, a déclaré Saïd Hassan Nasrallah. Les résultats des pourparlers indirects sur la démarcation de la frontière maritime avec Israël sont une victoire historique pour le Liban. La résistance ne se mêlera pas de cette affaire. Le Liban devrait également tracer sa frontière sud avec Israël, a-t-il assuré. Les frontières terrestres entre la Palestine et le Liban ont été démarquées sous mandat français et britannique, mais les frontières maritimes n'ont pas été délimitées. Après la découverte du pétrole et du gaz sur la côte sud du Liban, la démarcation des frontières maritimes revêtait une grande importance, a expliqué Nasrallah. À la lumière de la démarcation des frontières maritimes, le Liban désigne les blocs gaziers et pétroliers. Les eaux territoriales font partie du pays et l'État libanais a pleine souveraineté sur ses eaux et bénéficie de ses ressources, a-t-il poursuivi. La résistance était au courant des négociations sur la démarcation des frontières. Elle a pris une position décisive en référence au communiqué publié par le président Michel Aoun, le premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement Nabi Berri, qui considéraient le début de l'extraction du gaz comme une agression contre le Liban. La résistance avait menacé de ne pas autoriser l'extraction de gaz du champ de gaz naturel contesté de Karish en Méditerranée orientale avant la conclusion d'un accord qui répondrait aux exigences de Beyrouth, a-t-il aussi dit. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.